Annie de Peine, confidence de femme. Des mots insignifiants comme « je t'adore », « je me meurs », Jules Lemaître. Texte 1 à 5. L'attente. Pour toute la journée, j'ai congédié la vieille paysanne qui fait mon service. Je voulais être seule avec toi, dans ce coin sauvage et si pittoresque qu'on croirait un lointain village bourguignon, bien qu'il soit aux portes de Paris. C'est ensemble que nous l'avons découvert, il y a 3 ans. T'en souviens-tu? Un jour que nous avions pris un train, au hasard, pour aller n'importe où, pas trop loin. Ah, nous ne cherchions pas longtemps un but, lorsqu'il nous était possible de nous évader de notre vie fiévreuse. Ton refuge, c'était moi. Et n'importe où nous allions, tu te trouvais bien, puisque j'y étais. Mais le charme de ce joli pays en plein bois, avec ses rares maisons basses, cachées sous les branchages, ses tapis de haute mousse étendus sous les châtaigniers, te rappelles-tu? Nous faisions de grands détours pour ne pas marcher dessus, tant l'air tout neuf nous imposait. La bonne odeur de terre mouillée, de résine et de chèvrefeuille t'avait tellement grisé que tu ne voulais plus que nous partions. Comme un enfant gâté réclame un jouet, et comme si cela eût été possible, tu t'entêtais. Je veux rester ici toujours, toute la vie. Toute la vie? Avec toi, mamie aimée. Oh, le joli rêve est si facile à réaliser. Installons-nous tout de suite, je t'en supplie. Il doit bien y avoir une maison à louer ou à vendre. Et comme, plus sage, les bras noués autour de ton cou, j'essayais de dire des mots raisonnables, car déjà je savais la fragilité de tes enthousiasmes, soudain boudeur, tu as dénoué mes bras et déclaré, en faisant la moue, que je ne t'aimais pas, que jamais je ne t'aimerais autant que tu m'aimais. Te souviens-tu aussi de la clairière et du petit étang et des demoiselles aux ailes irisées qui, en tourbillonnant, font des grâces comme si elles dansaient un menuet? Et le petit ruisseau où coule une eau si vive et si claire que nous ne pûmes résister au besoin d'y rafraîchir nos lèvres, toi en la suppant au creux de mes mains, moi au creux des tiennes. Aux vacances, j'ai pensé au joli village que tu avais oublié, et voilà 15 jours que je suis ici. Une fois seulement tu es venu. Hier soir, il me semblait que si je devais t'attendre un jour encore, je n'en aurais plus la force. Mais ce matin, je me suis levée joyeuse. À midi, tu serais là. Dieu, que les heures ont passé vite. Comme une toute petite bourgeoise qui traite, et aussi sans doute parce que la femme qui aime a des instincts de mère et de servante, je n'ai plus songé, te sachant gourmand, qu'au repas que j'allais t'offrir. Je suis allée au marché voisin choisir les pêches les plus juteuses, les fraises les plus parfumées, le melon bien à point, la belle crème double, que j'ai rapporté précieusement dans un pot de grès entouré de feuilles de vigne et d'herbes humides, puis des œufs chauds pondus, un poulet à la chair fine et blanche. J'ai rapporté tout cela moi-même, dans un grand filet de ménagère. Les marchandes et les commères, d'abord hostiles, finirent par regarder avec admiration cette belle madame tout en blanc, un brin râleuse, mais qui s'est si bien achetée. Et moi qui vivrais de pain et de fruits plutôt que de me faire cuire un œuf, moi, si coquette de mes mains, après avoir allumé un grand feu de sarment, j'ai troussé, flambé, embroché le poulet, mieux peut-être que ne l'eût fait une cuisinière habile. Ah, combien j'étais fière de mon œuvre! Si tu m'avais vue regarder avec orgueil, comme un peintre regarderait une toile dont il est satisfait, les boutons dorés que prenait la bête, arrosés patiemment avec le beurre qui grésillait dans la lèche frite. À l'ombre de l'acacia et des sorbiers, j'ai dressé le couvert sur la table fleurie de capucine. Lorsque je fus parée de la robe que tu préfères, au moment de piquer une rose dans mes cheveux, sans savoir pourquoi, tout à coup j'ai frissonné. Mes mains étaient si froides que je suis venue les tendre aux braises qu'ont laissées les sarments. C'est fou par cette chaleur. Pour effacer l'inquiétude vague qui s'emparait de tout mon être, le brouillard qui me semblait ensevelir toutes les choses, j'ai couru à la barrière du jardin. Ah, comme j'avais besoin d'apercevoir ta silhouette là-bas, au tournant du sentier. Le sifflet du train qui s'arrête, au lieu de chasser mon effroi, a résonné sur mon cœur comme un cri de détresse. J'ai peur pourquoi ? Je détourne les yeux pour ne pas voir le boiteux, tu sais, le vieux porteur de dépêche. Il monte lentement le raidillon parallèle au chemin de la gare en épongeant son front. On dirait qu'il vient ici. Ce n'est pas vrai, dit. Viens vite me rassurer. Ah, mon Dieu ! Il a fait un signe. Il m'a vu et il brandit une dépêche, tout joyeux de penser qu'un verre de vin l'attend. Retenu au dernier moment, tendresse. Le vieux me regarde, ahuri. J'oublie de lui donner son verre de vin, mais je lui crie en éclatant d'un rire strident, continu, qui fait vibrer toute la maison calme et l'emplit d'un bruit de folie. Emportez tout, tout, le poulet, le melon, la belle crème, les fruits. Je n'ai plus faim, je n'aime rien de tout ça. Que je suis contente, que je suis contente, personne ne vient déjeuner. J'ai encore la force de lui jeter le filet à provisions et je me sauve dans ma chambre où je sanglote éperdument, effondrée en travers de mon lit.
Le suppléant. Oui, c'est ça. Rapproche ton rocking tout près. Tout près, appuie ta tête sur mon épaule. J'entourerai ton cou d'un bras indifférent. Ton contact ne fera pas tressaillir ma chair, mais de temps à autre, d'un geste machinal, je te serrerai un peu plus fort et je poserai mes lèvres sur ton front brûlant. Ne parle pas. Ne dis rien, que je n'entende pas ta voix. Si tu savais quel mal cela me fait, lorsque confiant tu murmures « Ah, que je suis heureux, comme je sens que tu m'aimes !» Les mots, comme une lame aiguë, entrent dans mon cœur à peine convalescent. J'abaisse vite mes paupières pour que tu ne vois pas la détresse qui passe dans mes yeux. Et quand tu baises amoureusement ma bouche, je retiens ma respiration, je m'applique à maîtriser mes nerfs, car je ne veux pas que tu prennes pour de la joie le long frisson d'épouvante qui ferait palpiter tout mon être. Pourquoi t'ai-je accueilli? Pourquoi t'ai-je laissé croire que je t'aime? Pourtant, je ne les ai jamais prononcés, ces mots que je ne sais plus dire. Je ne suis ni fausse, ni sadique, mais vois-tu, j'étais si désemparée, je souffrais tant. Le réconfort de ta présence, ton attachement de bon chien fidèle, ton dévouement m'était si nécessaire que j'ai eu peur de les perdre lorsque tu m'as avoué ton amour, moi qui n'avais besoin que de ton amitié. Oui, j'ai eu peur que tu t'en ailles si je te repoussais. Je t'ai encouragée, je t'ai gardée. J'ai été lâche devant la solitude, pardonne-moi. Tu me crois froide, mais tu ne doutes pas que mon cœur ne t'appartienne. Reste là, la tête sur mon épaule, je sens sa pesanteur et c'est tout. Ne dis pas les mots puérils, chers aux amants, ou prends bien garde. Appelle-moi ma chérie, mon aimée, mon amour si tu veux. Ma pensée est lointaine et je t'écouterai sans t'entendre. Mais ne dis jamais, ma petite fée, mon ange gardien, tu me verrais défaillir. Ah, si tu savais, lorsque ton regard loyal et tendre rencontre le mien, c'est d'autres yeux que je vois, des yeux troubles, voilés, faux, qui me dominent et me fascinent. Quand là-bas, au tournant de la route poudreuse, entre le coteau crayeux et le talus verdoyant, semé de clochettes mauves, je te vois accourir gaiement, sans me quitter un instant des yeux. Ah, si tu savais comme j'ai peur de ma mémoire. Le soleil se ternit, le jour s'éteint dans un brouillard. Je revois une autre allée bordée de platanes, et une longue silhouette qui s'avance lentement, la tête penchée, le regard vague. Mes lèvres tremblent. D'instinct, j'ouvre les bras, mais à mesure que tu approches, le mirage s'évanouit et mes bras se referment sans t'étreindre. Ne parle pas gravement quand la nuit tombe. Ne me montre pas le reflet des arbres dans la rivière, ni la cime des grands peupliers qui s'inclinent cérémonieusement comme pour saluer les étoiles. Ne dis pas que c'est beau, que c'est beau. Emmène-moi vite au contraire, sauvons-nous, rentrons, fais allumer toutes les lampes. Je ne puis plus supporter la mélancolie des crépuscules dans les champs. Mon cœur se glace et la futaie me semble une armée de spectres méchants qui viennent se gausser de ma tristesse. Tiens, on rirait si je pensais tout haut, mais je t'en supplie, ne dis plus cette petite phrase insignifiante, voilà le facteur. Le facteur, le petit télégraphiste. Ah, si tu savais comme autrefois leur attente a suspendu ma vie. Comme je les ai guettés longtemps à la fenêtre, puis le pas du concierge dans l'escalier. Tu ne peux pas savoir quel effondrement c'est d'entendre dans l'entrebâillement de la porte, le bras déjà tendu. Il n'y a rien pour vous, madame. Maintenant encore, lorsque tu me vois éparpiller un paquet de lettres au lieu de les ouvrir comme elles viennent, c'est que vois-tu, malgré moi, je poursuis un rêve. Je cherche la chère écriture cruelle que je ne reverrai plus jamais. Et tes lettres à toi, mon doux ami, tes lettres tendres et passionnées qui se succèdent immanquablement à tous les courriers. Ah, si tu savais comme elles me font souffrir! Il m'arrive de ne pas les lire tout de suite, de les poser sur le coin de la cheminée en m'accordant un répit. Tout à l'heure, tout à l'heure. Et lorsqu'il me faut enfin les ouvrir, je pense en les parcourant, si hâtivement que je saute la moitié des phrases, à d'autres lettres tant de fois relues, et dont pieusement j'épelais les mots un à un, avec ferveur, comme une dévote jouit d'une prière. Ah, si tu savais comme je me sens misérable de te tromper ainsi, comme j'ai honte de moi. Pourtant, je reste muette, mon bras indifférent se resserre autour de ta nuque et je cherche une excuse à ma lâcheté. Je me dis que tu aurais trop de chagrin si je cessais de te mentir. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas la force de rester seule, toute seule. Comprends-tu l'horreur de ces deux mots? Une fois, deux fois cependant, j'ai failli te crier mon secret. Ah, pardonne-moi, c'est lorsque des bouffées de souffrance me chaviraient le cœur que tout à coup je devenais mauvaise. J'enviais ta quiétude, j'étais jalouse de ton bonheur.
Je ne t'ai pas choisi. Pourquoi es-tu là,
dans ma maison? Pourquoi es-tu dans ma vie?
Ta quiétude, tes gestes pleins d'assurance, me déroutent. Dès que tu franchis mon seuil, ton visage sera sérène et s'éclaire. Vite, vite, dans l'antichambre, tu te dépouilles de ton pardessus.
Tu campes ton chapeau au petit bonheur sur la patère.
Ta canne choit à côté du porte-parapluie, en faisant un petit bruit sec qui m'irrite. Et tu entres si précipitamment que tu heurtes une chaise et accroches quelques meubles. Tout de suite, la joie d'être là te fait bavarder à tort et à travers, comme un gosse. Tu me racontes mille faits dont je n'ai nul souci. Tu te complais en des détails futiles. Tu as vu celui-ci, tu es allé là. Tu t'appliques à ne me rien laisser ignorer de ce qui te touche, comme si cela pouvait me préoccuper. Et moi, comme tout à l'heure la chatte anxieuse et agressive suivait des yeux le gros frelon insolite qui bourdonnait contre les carreaux,
je te regarde t'ébrouer, t'épanouir dans la tiédeur de mon gîte. Tu t'assois commodément, au risque de faire craquer la soie, dans ma grande bergère où ton palis, dont je prends tant de soin. Tu t'installes très à l'aise devant mon bureau, mon cher petit coin sacré, et tu griffonnes tes notes sur la feuille vierge que j'ai préparée pour moi. Je te regarde, hostile, manier les objets qui me sont chers, tourmenté par l'envie de te les arracher brusquement des mains. Laisse donc en place le grand coupe-papier d'ivoire avec lequel tu te plais à jouer en parlant. C'est un pieux souvenir, n'y touche pas. Quand tu fouilles dans la vieille armoire normande qui me sert de bibliothèque, quand tu feuillettes mes livres, j'ai le sentiment que tu vas les blesser. Et je rôde autour de toi, guettant l'instant où tu les poseras sur la cheminée pour te les reprendre sournoisement et les ranger. Quelle satanée petite maniaque tu fais, m'as-tu dit en riant et en m'embrassant l'autre jour. Lorsqu'après ton passage, les revues, les journaux tout dépliés, traînent sur les sièges en déroute, l'aspect de mon logis me fait songer à une maison pillée par l'ennemi. Mais, en néophyte aveugle, tu continues à ne rien deviner des pensées mauvaises qui m'agitent l'esprit. Tu ne remarques pas la lueur de rage qui passe dans mes yeux quand tu me contemples de coin, le regard voilé, un peu trouble. Tu sais, ce regard spécial qu'ont, malgré eux, même sans être fat, les hommes habitués aux bonnes fortunes, et qui dit clairement « encore une que je tiens ». Tu trouves très naturel que je figure au nombre de tes conquêtes, et tu crois sans doute que je suis une privilégiée, moi, que tu aimes plus longtemps que les autres. Et je n'ai pas le courage de te détromper, de me libérer, de t'avouer que si tu es devenu mon amant, ce fut par surprise, un jour d'affreuse détresse, pour essayer d'oublier. Je souffrais tant. Alors, oui, comme le malade incurable finit par accepter tous les remèdes qui s'offrent, je t'ai accueilli. Tu étais supérieur aux autres, mais je t'en veux de ma faiblesse qui ne m'a pas guéri, et, à chaque instant, ma rancœur éclate. N'ayant pas la force d'être féroce une bonne fois, je suis cruelle à petite dose pour te lasser. J'ai recours à de petits moyens mesquins, qui me sembleraient odieux chez les autres. C'est plus fort que ma raison. J'y suis poussée par un besoin machiavélique de tyrannie, que j'ignorais avant de te connaître, et qui s'exerce à tout propos, pour des velléités. À peine ouvres-tu la bouche, qu'il faut que je te contredise. Je suis constamment à l'affût du geste, du mot malencontreux qui provoquera la critique. J'ai fini par te persuader que tu as maint travers, et secrètement honteuse de ma duplicité, j'assiste impassible aux efforts que tu tentes pour te corriger de défauts imaginaires. Par moments, ma mauvaise foi est si flagrante que je me demande comment tu ne te révoltes pas, au lieu de prendre le parti d'en rire. Car tu as ri, l'autre jour, lorsque je te soutenais, avec un entêtement ridicule, exaspérant, que deux fenêtres ouvertes, l'une en face de l'autre, n'établissaient pas de courant d'air. Cela ne te surprend donc pas quand ceux qui me connaissent depuis toujours vantent mon caractère facile, mon humeur égale. Et c'est vrai, j'ai conscience de n'être insupportable qu'avec toi. Et maintenant que la mésentente, oh, cordiale encore, s'est petit à petit glissée entre nous, voilà que je tremble. Pourquoi ? Je l'ai voulu pourtant, cette discorde. Elle est mon œuvre. J'y ai travaillé sans relâche, en ouvrière zélée. Et soudain, mon ouvrage me fait peur. Tu n'es plus le même. Je le sens à des riens. Non, tu n'es plus le même. En arrivant, c'est posément que tu te débarrasses de ton pardessus dans l'antichambre et que tu coiffes la patère de ton chapeau. Je n'entends plus le petit bruit sec et crispant de ta canne qui tombe. Tu n'accroches plus les meubles et tu n'as plus d'histoires insignifiantes à me raconter. Autrefois, lorsqu'il te fallait abréger tes visites, je me réjouissais de ta mine d'enfant grognon que l'on prive d'un jouet À présent, tu t'en vas comme si tu te sauvais.
Pourquoi hier, lorsque ton bleu est arrivé, ne l'ai-je pas ouvert tout de suite?
Je le tournais et retournais dans mes mains, prise tout à coup d'une appréhension presque douloureuse. Il me prévient qu'il ne viendra pas, me disais-je. Ça m'est égal. Et je me suis répété plusieurs fois, ça m'est égal, à haute voix,
comme s'il m'eût fallu le crier très fort pour m'en convaincre. Toute la soirée, mon imagination a battu la campagne. Je n'ai pu commencer ni achever aucune besogne. Ma pensée indocile filait à ta poursuite.
Pourquoi ai-je ressenti cette irritation, ce malaise au cœur, tantôt, quand tu m'as parlé de la visite de cette poétesse qui voudrait t'intéresser à son livre? Qu'est-ce que cela peut bien me faire, puisque je ne t'aime pas? Je ne t'aime pas.
Brouillé. Est-on brouillé pour tout de bon, dis? Est-ce bien vrai que tu ne m'aimes plus? Et moi, suis-je si sûre que cela de ne plus t'aimer? Oui, je sais bien, lorsqu'après avoir tourné et retourné la poignée de la porte, comme si tu ne la pouvais ouvrir, tu es revenue vers moi en murmurant d'une voix chavirée, « Mamie, je t'ai dit, à quoi bon une fois encore nous réconcilier, puisque jamais, jamais nous n'arriverons à nous comprendre. Les mots, les gestes ont pour chacun de nous une signification différente, et c'est à croire qu'un dieu malin prend plaisir à dépareiller chaque jour un peu plus notre humeur. Si je m'éveille joyeuse, le cœur léger, l'esprit serein, oubliant par un bienheureux miracle une foule de soucis qui, à d'autres heures, m'accablent, toi, ce jour-là, tu arrives maussade, bougon, comme si tu faisais exprès d'éteindre ma gaieté, comme si le contentement même de ceux que tu chéris te portait ombrage. Et malgré moi, tu me fais songer à ces aimables gens qui se réjouissent de voir qu'il pleut, les jours où ils ne peuvent sortir. Avant que tu ne sois là, je pensais à toi doucement, tendrement, et voilà que ton visage hostile m'a soudain rendue hargneuse. Et pourtant, je t'assure qu'aujourd'hui j'avais l'âme pacifique, j'étais disposée à tout prendre bien. Les petites tracasseries de la vie me semblaient comiques à force d'être crispantes. N'était-ce pas drôle, en vérité, qu'à la minute même où je la tenais, où j'allais enfin la pouvoir fixer sur la feuille noire de rature, cette satanée phrase, réécrite 10 fois sans qu'elle sortît à mon gré, la grosse servante, nouvellement débarquée de son pays de Caux, ouvrit la porte d'une poussée de genoux, sans frapper bien entendu, et me cria en brandissant d'une main un maquereau et de l'autre une limande. « Ah, ce qui sont volés dans cette sacrée ville, style à ses 12 sous, et puis style à 15, duquel que madame veut. Mais à ce prix-là, on irait de la vraie viande qui nous tiendrait au ventre. » Et l'électricien, figure-toi que pour venir changer les ampoules de ma chambre, il a choisi l'instant précis où je lassais mon corset. Ma jartelle a craqué comme j'attachais ma voilette. Eh bien, rien de tout cela ne m'a mis en rage. Mais si je suis accablée de travail, si je suis lasse, aigrie, ou si encore un malaise moral ou physique, un ennui, que sais-je, me détraque? Ah, je puis être tranquille. Ce jour-là, toi, tu auras l'esprit qui est. La vie ne t'aura jamais paru si bonne. Tu ne songeras qu'à plaisanter, à rire. Au diable les préoccupations. Après tout, elles n'ont que l'importance qu'on leur veut bien donner. Et pour peu qu'un rayon de soleil s'en mêle, tu accours me chercher pour aller boire de l'air, manger de l'herbe et respirer la bonne odeur des feuilles toutes neuves dans les bois. Ce ne sera pas l'heure à laquelle d'ordinaire je t'attends, mais qu'importe. Lorsque le ronflement de l'auto, ton double coup de sonnette me feront tressauter, je ne serai ni coiffée, ni habillée. Horreur, mes joues seront vierges de poudre et mes lèvres de raisin. Te doutes-tu qu'être surprise ainsi, c'est pour une femme coquette le pire des maux? Enveloppée du vieux peignoir défraîchi dans lequel je suis si à l'aise pour travailler, sûre de n'être pas dérangée, j'achèverai fiévreusement, penchée sur mon établi en désordre, une pressante et fastidieuse besogne. Ou bien je serai en cet état béni, où tout vous apparaît agréable, facile, où les idées viennent toutes seules. Elles ont des âmes à l'unisson des vôtres, des visages souriants, une haleine parfumée qui vous grise, des voix qui s'élèvent en un cœur magnifique. Et vite, vite, n'osant ni respirer ni bouger la tête de peur de rompre le charme, on transcrit d'une plume docile, pêle-mêle sur le papier, les notes les plus aiguës de l'admirable concerto qui vous exalte. Mais toi, qui pourtant devrais connaître le prix de ces fugaces heures si précieuses, tu ne comprendras pas que, malgré ma joie de te voir, j'ai un petit mouvement d'impatience. Tu prendras une mine de victime résignée pour contempler mes mèches en déroute, mes mules de satin rouge, alors que moi, pour te faire plaisir, je vais m'habiller en hâte, sans fignoler ma mise, et qu'aussi je laisse en plan ma pauvre besogne inachevée. Non, tu ne verras qu'une chose, c'est que je n'ai pas deviné que tu allais venir, que je ne suis pas prête, et que tu vas être obligée de m'attendre. Mais oui, tu m'aimes, je sais bien, et je connais ton grand argument. Tes meilleures intentions se retournent contre toi. Dis-moi, pourquoi s'est-on querellé si fort l'autre jour? Pourquoi s'est-on forcé? Car au fond, si nous excellons à nous chipoter, nous ignorons les vraies scènes. Pourquoi s'est-on si bien appliqué à se dire tant de choses méchantes? Je ne t'ai pas scellé, et en quels termes, que j'en avais assez de ton caractère détestable. Et toi, tu m'as déclaré sans phare que je ne répondais en rien à ton idéal. Nous avons reconnu que nos idées, nos goûts étaient divergents et qu'à plaisir, en demeurant enchaînés l'un à l'autre, nous gâtions notre vie. Et en effet, tous ceux qui te connaissent s'accordent à vanter l'égalité de ton humeur. Elle n'a d'égal, disent nos amis, que mon caractère charmant. Chacun, avec toi, s'entend admirablement. Personne avec moi n'a jamais eu la moindre discussion. S'il nous est impossible de causer ensemble sans nous chamailler, nous écoutons les autres avec une patience d'ange, et il est bien rare que nous ne soyons pas de leur avis. Mais pourquoi, dis, pourquoi ai-je cette impression bizarre, énervante et pourtant délicieuse, que je m'entends bien moins, oh, infiniment moins avec les autres, quand je suis pleinement d'accord avec eux, qu'avec toi, mon insupportable ami, lorsque nous sommes en querelle?
C'est fini. Ah, que c'est bon de se sentir délivrée, légère, maîtresse de soi, désasservie. Je ne t'aime plus, je n'aime plus. Comprends-tu l'importance de ces trois mots-là? Je m'ébroue comme les oiseaux au sortir d'un cajot. Je regarde le jour, les yeux un peu clignotants, éblouie par le soleil et la beauté de tout ce qui m'environne. Tout m'enchante. Mon petit coin de jardin, déjà roussi par la sécheresse, prend un air de fête. La guêpe dorée et gourmande, à laquelle je dispute un fruit juteux, semble folâtrée et ne m'effraie plus. Les bois trompent l'œil, battus et sans parfum, où le train me mène en un quart d'heure, ont un regain de sève. La rue m'amuse avec ses passants essoufflés de chaleur. Les cris des marchands de légumes et de poissons le matin, les commères qui prennent le frais, assises au seuil de leurs portes, le soir. Mon allégresse se reflète partout. Je crois lire de la bonne humeur sur tous les visages et j'exalte les choses les plus banales. Je voudrais sauter, danser, chanter. J'ai un besoin fou, irraisonné, de proclamer ma délivrance, comme le doivent avoir les peuples opprimés au lendemain d'une révolte victorieuse. Et c'est toi, toi pour qui j'ai tant souffert, que je choisis pour confident. Pour qui j'ai tant souffert, c'est drôle, en écrivant cette phrase, ma plume perd son élan. Je m'arrête étonnée, embarrassée, réfléchie. Est-ce bien de moi qu'il s'agit ? Pour voir, j'appuie la main sur mon cœur, à la manière godiche des ténors légers qui débitent une romance sentimentale sur la scène d'un music-hall. Mais mon cœur demeure sans émoi. J'ai beau évoquer le souvenir du tri et de la sonnette, deux fois répété, d'une silhouette alourdie que je parais d'élégance, d'un parfum, d'un geste familier, d'une écriture qui est un portrait vivant. Rien n'y fait, rien ne vibre. L'idée de parler de ma souffrance me rappelle le temps où, à l'école de mon village, la bonne sœur, puérile, nous disait sous prétexte de développer notre imagination. Pensez, mes enfants, que vous êtes allés à Rome, que vous avez eu le grand bonheur d'approcher notre Saint-Père le Pape et raconter vos impressions. Les unes disaient qu'elles étaient montées au ciel, soutenues par des anges, et qu'elles étaient redescendues, habillées de bleu, avec des couronnes d'or et des ailes. Les autres parlaient d'un magnifique château tout en argent, avec un pape assis sur un nuage. Il était beau comme l'enfant Jésus, et il leur avait donné un gros morceau de pain béni. Les autres voyaient sa sainteté ressemblant comme deux gouttes d'eau à la Sainte Vierge. Mais aucune de nous n'arrivait à se le représenter dans un cadre vraisemblable. À vrai dire, le pape, pour nos cervelles de 9 ans, c'était une fiction, un peu de fumée, de poudre miroitante, de brouillard dans le lointain, comme ma douleur aujourd'hui. Oui, mon amour est bien mort, ma peine est finie. Tout mon être s'épanouit, tressaille d'aise, je regoûte enfin la vraie joie de vivre. Je savoure à petits traits, presque en ronronnant, comme un chat gourmand lape une tasse de lait, le contentement de n'être plus l'ombre gigantesque et ridicule qui, couchée à terre ou collée au mur, suit niaisement son maître lorsqu'il se prélasse au milieu de la route. Je tranche, je décide, selon mon bon plaisir ou mon intérêt. De tous mes efforts, me voilà seule à récolter le fruit. Désormais, j'écouterai, condescendante, lorsqu'on me racontera des histoires de sottes qui passent leur temps à se dévouer sans gloire ni profit. Je sourirai, supérieure, avec un peu de pitié, songeant, est-il possible qu'il y ait des femmes aussi bêtes? Dans mon home, arrangé à mon goût, je travaillerai à la besogne qui m'est chère. Je la polirai, je la fignolerai. Elle sera mon pieux souci, j'en ferai un chef-d'œuvre. Je ne me lèverai plus 10 fois, tourmentée d'inquiétudes vagues, pour aller regarder l'heure, une auto qui s'arrête, écouter un pas qui résonne dans l'escalier. Je ne paierai plus de 20 heures d'attente durant lesquelles on erre, démantelé, sans force et sans courage, une heure de joie, bref comme une minute. Quelle que soit l'occupation du moment, j'accomplirai ma tâche, telle une écolière studieuse. Ma pensée indocile ne s'envolera plus malgré moi, uniquement absorbée par d'éternel « Où est-il ? Que fait-il ? » Je n'aurai plus à refouler mon indignation devant une injustice déterminée, un propos qui révèle un tempérament envieux, égoïste, une âme mesquine et vulgaire. C'en est fait des petites capitulations lâches. Je ne louerai plus tout haut, d'une voix mal assurée, un brin honteuse, ce que ma conscience réprouve, pour la seule joie de voir un visage s'éclaircir et sentir 2 bras m'étreindre. Dans les plus petits faits, je connaîtrai le prix de l'indépendance. Au gré de ma fantaisie, je voyagerai ou je resterai chez moi. S'il me convient d'aller à la mer, ce n'est pas la montagne que je subirai. À loisir, je pourrai m'attarder devant les sites qui m'enchantent. Aucune voix ne troublera mon recueillement. Aucune impatience ne m'arrachera brusquement à ma contemplation. Je ne suis pas gourmande, sans quoi je dirais « Au repas, les meilleurs morceaux seront pour moi, et aussi la pêche la plus belle, la reine Claude bien mûre qui se fendille. » Par habitude, j'inspecte le plat d'un coup d'œil rapide, et vite, je choisis la noix ou le filet pour l'étendre machinalement vers ton assiette. Mais tout à coup, je m'aperçois que ton couvert n'est plus là, et je reste un instant embarrassée de mon geste. Instinctivement, Je laisse ta part de côté, comme si tu allais venir, ou bien comme l'on garde la part du bon Dieu en coupant la galette des rois. Et par habitude aussi, sans doute, il m'arrive encore d'essuyer une larme qui perle sans raison, comme autrefois, lorsque tu ne venais pas.